avoir château dans le Lot. Visite découverte des châteaux de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui, nous sommes à nouveau au château de Sennevières, bien sûr, où nous étions les deux dernières émissions pour la visite guidée. Donc bonjour monsieur de Braquilange.
Bonjour.
Bonjour madame de Braquilange.
Bonjour à vous tous.
Et bonjour Marie-Madeleine qui nous suit toujours dans cette émission.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Voilà, alors écoutez monsieur de Braquilange, nous étions dans le grand salon. Et nous sommes passés la porte pratiquement à côté dans cette belle chambre à couleur rouge, un petit peu rouge aux tomates. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, ben là c'est un exemple de pièce qui juste après le grand salon où vous avez vu où vous verrez en venant les poutres peintes, vous avez ici le modèle juste avant, c'est-à-dire plafond plâtré, qui confirme ce que j'ai dit à la dernière émission. Vers 1850, la mode était à réduire un petit peu, isoler nos pièces, comme on le fait aujourd'hui avec nos panneaux de placoplâtre et autres stupidités. Et ben là, c'était fermé comme ça, et on a décidé avec les monuments historiques de le garder, parce que si on enlève tout, ces témoignages, ben vous supprimez 50, 100 ou 150 ans d'histoire, ce qui est quand même pas tout à fait raisonnable. C'est exactement le débat qu'il y a en ce moment sur Notre-Dame de Paris. Est-ce que je remets la petite flèche de Viollet-le-Duc ou pas? Donc on peut dire que c'est nul, ou on peut dire aussi que si on l'enlève, eh ben on a échappé, on a effacé 150 ans. Donc voilà, au demeurant, ça permet de réduire un peu la hauteur, et pour l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire des chambres, c'est pas totalement idiot.
D'accord. Alors c'est une chambre, il y a quelques portraits d'ailleurs, il y en a un tout de suite au-dessus de la porte qui nous amènera tout à l'heure à la salle d'alchimie. Il représente quel personnage?
Alors là, c'est mon arrière-grand-père qui s'appelle Charles Le Sage, qui était ingénieur, et vous l'avez ici sur un beau tableau, qui représente, il est en costume de maire de Limoges.
D'accord.
Il habitait là-bas, Sennevières était l'une de ses propriétés, et il s'est occupé de faire beaucoup, beaucoup de travaux. Il était ingénieur, et c'est lui qui a participé en partie aux travaux de la construction de la voie ferrée Cahors-Cap de Nac, qui s'est faite, j'ai un document revu il y a pas très longtemps, 1882. Il a été exproprié pour le terrain, et puis à la fin des chantiers, il a reçu un joli mot de l'ingénieur des chemins de fer français, puisque c'était le nom, en remerciant la qualité des cailloux de Sennevières qui ont servi à faire la castine et l'enrochement pour la voie ferrée.
Très bien.
Donc, voilà.
Alors, nous avons ce portrait de votre aïeul.
Ah,
voilà. Et au-dessus de la porte par laquelle nous sommes passés, alors il y a une très très belle dame.
Oui.
Alors.
Ben là, il s'agit de sa femme. Bon, j'ai oublié le prénom à l'instant, mais ça va me revenir. Odette. Non, c'était sa fille. Enfin bref, sa femme, plutôt sa femme, voilà.
D'accord. Voilà. Et donc c'est une chambre 19e. Et donc c'est un beau lit à baldaquin.
Oui, baldaquin.
Voilà.
Un modèle, c'est pas très très vieux, mais c'était tout à fait à la mode. Les baldaquins, aujourd'hui, on les met plus, mais à l'époque, vous voyez, avec le volume de ces pièces, eh ben quand vous fermez les rideaux, vous avez un petit feu dans votre cheminée. Vous allez passer deux appareils que je vous montrerai tout à l'heure dans la cuisine, des
genre de chaufferettes,
bassinoires,
voilà,
chaufferettes. Vous permettez d'avoir un lit qui est chaud et sec. Vous fermez les rideaux et vous êtes tranquille. Donc c'était, on va dire, tolérable. Parce que ben, c'est notre génération qui est arrivée avec nos 21 degrés, mais
oui.
Vos grands-parents, quand les miens, c'était pas le cas. Hein,
tout à fait. Au niveau des meubles, Marie-Madeleine, avez-vous quelque chose à rajouter?
écoutez, ce lit fin 19e, comme oui, on en faisait beaucoup à l'époque. Voilà. À la même époque, il y avait les fameuses salles à manger style Henri II. Mm-hmm. J'ai dit bien style, et non pas d'époque. Et ce baldaquin est tout à fait dans ce style-là, avec des colonnes cannelées en partie, avec des vases Médicis, des écussons, des draperies, des masques de lion, etc. C'était tout à fait dans le style fin 19e.
D'accord. Donc tout le mobilier est de cet ordre-là, hein, armoire, fauteuil, avec une cheminée magnifique et un tableau au-dessus non moins magnifique.
Ce petit tableau, il n'est pas très vieux, il a été peint par une Russe qui s'appelait Irène Serkoboy, qui habitait Sennevières, qui est morte en 89. Et ma grand-mère habitait souvent là pendant l'hiver, et elle se faisait des petites soirées ou des petits repas avec du thé à 4 heures, et elle discutait. Et alors cette brave personne, probablement c'était des échappés de la révolution de 17, là, qui partait, elle était à Saint-Pétersbourg, et elle avait fait l'école des Beaux-Arts, qui avec celle de Londres et Paris, c'était les trois grandes écoles européennes à l'époque. Et donc voilà, elle avait fait beaucoup, beaucoup de tableaux, qui se trouvent dans le cloître ou le musée de Villefranche-de-Rouergue. Mmh. Il y a 7 ou une bonne douzaine de tableaux qui ont été faits par elle.
De très jolies couleurs qui sont vraiment très très en phase avec la pièce, qui est vraiment superbe. Il y a également une table sur laquelle se trouvent des objets superbes. Alors, lampe à pétrole, voilà.
J'en ai souvenir enfant. Parce que avant qu'on ait de la grande électricité, on a démarré avec 3 fils. Mon père m'a montré la première facture EDF ici, et il y avait connecté, il y avait une ampoule. Hein. Donc, quand j'étais gosse, donc dans les années 60-65, traditionnellement au mois d'août, toute la famille est là, le gros orage du 15 août, la foudre sur le poteau transformateur, et on finissait les repas aux lampes à pétrole. C'est très sympa, on adorait ça d'ailleurs, après avoir eu un peu peur.
Et il y a, entre ces deux objets, il y a un troisième objet qui est superbe, une pendule Marie-Madeleine.
Une pendule, oui, une pendule en métal doré. Qui est tout à fait style 19e, hein, qui rappelle l'antique également, avec cette vestale, on peut dire, debout à côté du cadran. Voilà. Et puis un socle qui est orné d'une guirlande avec des angelots, c'est tout à fait typique de la fin du 19e. Voilà, mais c'est très agréable entre ces deux lampes à pétrole. Ça fait un petit ensemble harmonieux.
Avant de passer dans ce cabinet d'alchimie que je soupçonne fort intéressant, est-ce qu'il y a d'autres objets ici dont on pourrait parler, Marie-Madeleine, peut-être?
On peut dire que la pièce est tendue de toile de Jouy.
Oui, voilà, c'est
ça. Ce qui lui donne un aspect très cosy. Ouais. Et c'est très agréable à regarder. C'était traditionnel là aussi, hein, la toile de Jouy, 18e, voilà, entre le 18e et le 19e, qui a eu beaucoup de vogue.
Hein, il y avait aussi des tissus qui venaient de la Compagnie des Indes, parce que c'était le négoce international. On avait pris l'habitude de trouver les fibres sympathiques, on avait trouvé aussi les teintures, et après Jouy, je crois que c'était le cas, il s'était mis à utiliser les produits pour faire ces toiles qui sont très très agréables.
Et ça réchauffe la pièce.
Oui, voilà. Oui. Et pour l'entretien d'une pièce de cette valeur, aujourd'hui, c'est facile.
Non, c'est pas facile parce que vous voyez l'aspirateur. Là, il faut que je monte sur mon échelle pour aller nettoyer le bord des trucs. La pièce est tout le temps ouverte. Mm-hmm. Elle était accessible à la visite, donc ça fait des flux. Tout ce qui est sol, tout ça, ça se cire facilement, mais en escalade, il faut être quand même assez doué, quoi. On y arrive, on y arrive.
Bon. Alors nous allons passer par cette porte qui nous amène à ce fameux cabinet d'alchimie. Alors voilà, nous passons sous le portrait de l'aïeul de Monsieur de Braquilange. Et là nous arrivons, nous changeons d'ailleurs de sonorité. Vous allez l'entendez peut-être, je pense. Alors moi la première des choses que je vois, ce sont quand je lève les yeux, parce qu'on est attiré par cela, nous voyons des peintures. Alors.
Tout à fait. Alors d'abord, les peintures qui sont là n'ont pas été couvertes comme celles du grand salon. Mm-hmm. Et quand mon père est né en 1920, cette pièce était une salle de bain et mes grands-parents couchaient à côté. Mm-hmm. Et donc gamin, ben papa voyait tout ça, voyez, qui était là-dessous. Aucune curiosité de la part des grands-parents. Et c'est dans les années 70, quand on a découvert les autres peintures, qu'on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il y en a qui sont à côté, alors on a pu, on va dire, se pencher sur ces sujets qui intéressaient pas grand monde.
Alors, nous venons de passer sous la porte où se trouve le portrait de votre aïeul, et donc je dirais que presque à notre gauche, nous apercevons cette fresque et ces peintures. Alors, que représentent-elles exactement ?
Alors, la thématique, si vous voulez, on est sur des peintures qui sont sans doute des années 1600, quelque chose comme ça. Dans la bibliothèque se trouvaient des livres, on en a parlé la dernière fois, parmi lesquels on a le récit des Métamorphoses d'Ovide. Hein, c'est le début de l'imprimerie. Avant d'inventer des nouveaux bouquins, on va commencer par copier les parchemins qui traînaient partout. Et évidemment, notre culture européenne, quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est des Romains et des Grecs. Et donc, on va se taper toute cette littérature. Parmi elles, les Métamorphoses d'Ovide. Et vous avez là une quinzaine de dessins.
Voilà, nous avons le premier tout de suite à gauche.
Alors voilà, là c'est Jason, voilà. Hein, avec... le taureau de Crète qui est amoureux fou de la reine Médée qui se trouve là-bas sur le fond. Et cette reine Médée, son père qui est sous le pylône du milieu, c'est le roi Aedes, le roi de la Colchide. Et qu'est-ce qu'il fait, Jason? En fait, il est amoureux de la fille, il doit combattre quelques taureaux de Crète pour il crache des flammes pour la conquérir. Et surtout, il sait que dans cette Colchide, qui est le Caucase aujourd'hui, le sud de la Russie, hein, le nord de la mer Noire, eh bien, il se trouve que vous pouvez aller vous y balader. Mon fils y est allé il y a 3 ou 4 ans, et là-bas, ben, partout, les restaurants s'appellent chez Jason, la Toison d'Or, et le truc, enfin, ça reste très très fort. Et pourquoi on parle d'or? Parce que c'est une région dans laquelle, dans les rivières, vous vous baladez avec votre petite passoire, et vous allez faire de l'orpaillage. Mmh. Donc, on pouvait trouver quelques pépites qui lui servait à ce brave Jason pour fabriquer, on dirait aujourd'hui, la bague de fiançailles, quoi, comme il est amoureux. L'or, beauté, je fais un effort pour donner ça à ma chérie. Et ce dessin, si vous regardez bien, il est en face du foyer qui est là.
Ah oui, effectivement.
Qui est un foyer qu'on appelle un athanor, dans lequel on essaye, depuis la Renaissance, mais même depuis le monde arabe, au moment de la construction des pyramides. Athanor, c'est un mot grec qui signifie arabe, qui signifie cheminée, justement. Et là-dedans, on essayait de transmuter le plomb en or. Alors, j'ai pas la recette, hein, on la cherche encore. Si jamais je trouve, je vous le dirai. On
partagera les vidéos. Nous partagerons avec nos auditeurs.
Et là, nous avons quoi? Nous avons une symbolique de cette Renaissance et même du Moyen-Âge, où on cherchait à fabriquer de l'or, ce qui veut dire, en gros, des choses que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, enfin pas nous, mais nos enfants, qu'est-ce qui est le plus riche du monde? Donc si jamais je trouve la formule, je vais fabriquer de tels lingots que je serai riche. Et c'est une obsession, l'or symbole de richesse, mais l'or en quantité. Alors que Jason, il cherche de quoi faire un petit collier et une boucle d'oreille, peut-être une bague de fiançailles. Hein, c'est cette... Allez-y.
Vous parlez du Moyen-Âge pour la transmutation de l'or. Il y a quand même un personnage célèbre dans le Lot qui a écrit un traité de transmutation de l'or. Ce n'est rien d'autre que Jean 22.
Ouais. qui démarre, Jean 22, qui était né à Cahors et qui était un spécialiste, enfin, où il aimait ça, je sais pas si c'était pas son métier parce qu'il s'occupait de nos âmes, mais c'était déjà à la mode. Je crois qu'il y avait, ça au sens de la recherche, comme on dirait aujourd'hui, comme le font des chercheurs en médecine, s'il y en a un qui peut trouver le vaccin, d'ailleurs je le féliciterai, qui marche à tous les coups, mais on fabrique des alliages, on fabrique des tas de choses, même dans les industries modernes, informatiques et autres, il y a de temps en temps quelques génies qui font pousser les choses. Et donc là on est un peu sur la dérive humaine, qui est malheureusement celle qu'on voit, et qu'on peut mettre aussi ce même sujet en rapport avec un autre dessin qui est au-dessus de la porte,
qui vous explique... la porte par laquelle nous sommes passés, justement. Voilà.
Et là, vous avez la chute de Phaéton. Phaéton, vous allez voir l'histoire, c'est le fils de Hélios, Apollo, le dieu soleil, qui est là-haut, assis sur son trône, super puissant. Et son boulot, à Apollo, c'est de faire tourner le char du soleil. Le matin, il y va, il charge le soleil à l'est, il va le ramener à l'ouest, et il s'endort. Et puis, son fils, au bout d'un moment, s'énerve un peu en lui disant, « Papa, tu commences à vieillir. Est-ce que par hasard, je pourrais prendre ta place ?» Et puis, il se fait remettre à sa position de brave citoyen. Jusqu'au jour où, excédé, le fiston Phaéton revient avec une bande de copains, et ils vont distraire son père, et lui va s'emparer du chariot. Et c'est la symbolique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas un dieu, hein, le fils d'un dieu, c'est pas un dieu, c'est un humain comme vous et moi, et qui a l'ambition de virer son père pour prendre sa place. Ben moi, tous les matins, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai une bande de crétins qui se prennent... pour les dieux, de ceci, de cela, du sport, du stade, de la politique, on y va toujours, quoi. Et c'est écrit, Ovide, il est mort en 17, hein, je crois, 2000 ans. Eh ben, c'est quand même d'actualité.
Tout à fait.
Sur un plan philosophique, je dirais presque déontologique, sans parler de spirituel, ça reste quand même une remarque qui est vraie. Alors, la punition qui est faite à ce Phaéton, elle vient de Zeus, qui est là-haut, assis sur son aigle. Il a la foudre sur sa main droite, et il va foudroyer ce garçon en lui disant, pense sur le bec, il y en a un qui commande, c'est moi, c'est pas toi. Parce que, en conduisant ce chariot, il dérègle tout, il va trop vite, Éole, le dieu du vent, se met à rouspéter, quand il y a du vent, les bateaux se touchent, la mer bouge, Neptune n'en peut plus, enfin, tout le monde crie en même temps, en disant, arrêtez le massacre avec ce gamin. Et donc, c'est, vous voyez, sur un plan, c'est à la fois l'humain et le divin, et de temps en temps, chacun a un rôle. Mais si je me prends pour un dieu matériel ou un dieu spirituel tous les jours, c'est peut-être pas directement ma vocation.
En tout cas, je sais pas au courant. Mais vous avez raison de dire que c'est tout à fait d'actualité. Oui. Est-ce que nous pouvons continuer sur les peintures? Donc, à droite de celle où se trouve Jason, il y a tout de suite, on voit, elle est plutôt un peu plus noire.
Oui, voilà, Ulysse avec qui vient jeter les armes de son ami Achille, Patrocle. Qui est mort au combat, Patrocle, pardon. Il jette ses armes et il vient dire au chef des tribus, là, arrêtez quand même cette guerre qui est stupide, on passe notre temps à se tuer. Là, vous avez l'incendie de la ville de Troie, juste à côté.
Ah oui, tout à fait, oui, à droite encore.
Oui, la ville en flammes, aînée sans doute en blanc et qui suit son père, dont j'oublie le nom, qui était aveugle, Anchise, hein, c'est ça. Il le suit et ils s'échappent tous. Alors, vous voyez sur l'époque le petit cliché. Sur la droite, on voit des casques qui sont quand même plutôt renaissance.
Oui, c'est un petit peu anachronique, effectivement.
À droite, là-bas, c'est le couronnement de Numa Pompilius, qui est un empereur romain, spécialiste étrusque et spécialiste de chimie aussi. Un des grands promoteurs de cette science.
Alors, nous continuons le tour des peintures.
Voilà, alors là, c'est je ne sais plus quel berger. Là, vous avez deux des 12 travaux d'Hercule qui terrassent le taureau de Crète. Et ici, avec Atlas, il soulève le monde, hein, avec l'ambition d'être le support de tout ce beau monde. Là-haut, ce serait les trois.
Voilà, ce sont des peintures qui se trouvent au-dessus de la cheminée.
De la cheminée.
Voilà.
Le foyer
dont,
de la
dont nous avons parlé tout à l'heure.
Avec quelques dessins symboliques.
Et des couleurs ocre.
Oui. Hein,
ocre et noir ou gris.
Beaucoup d'ocre,
voilà,
exactement.
Beaucoup d'ocre. Exactement. Effectivement. Et donc, lorsque nous levons complètement la tête, nous apercevons d'autres peintures.
Voilà. Alors là, ce seraient les trois filles de Jephté.
Les sœurs de
Phaéton. C'est Phaéton, hein, voilà. Avec, lorsqu'il est mort, c'est ça, c'est le cercueil, hein, et puis les filles transformées en laurier.
En cygne.
Voilà, et l'autre en cygne, là-bas.
Mm-hmm. Alors, nous continuons,
ici,
oui, il y en a une deuxième.
Ici, on a, comment il s'appelle, Orphée. Voilà, Orphée qui drague Eurydice, et il devait quitter les enfers sans se retourner.
Oui.
Et comme il était fou amoureux de la fille, tout en jouant de la lyre, et ben il va... Il va participer à ça.
C'est Eurydice qui va se retourner
voilà,
et être
voilà,
pétrifié.
Exactement.
Mm-hmm. Et donc la dernière, voilà.
Les bacchantes,
voilà les bacchantes et la dernière peinture.
Le bain de Diane, celui-là.
Alors le bain de Diane.
Diane avec qu'est-ce qui suit ? C'est Actéon, je crois, hein, qui est
oui,
sur le
voilà,
sur le cheval là-bas. Ouais. Voilà, et des tas de petits signaux. Alors toutes ces peintures sont là. Il y a pas mal de châteaux. Qui ont ça. Alors, on en a vu en famille des dizaines et des vingtaines en Italie, en Europe centrale et en Angleterre. En France, vous avez le Château des Coins, qui est le musée national de la Renaissance, qui a ça.
Mm-hmm.
Et pas très loin de chez nous, un très joli château qui s'appelle Dampierre-sur-Boutonne, à côté de Cognac, vous voyez, dans les Charentes. Et là, vous avez exactement les mêmes scènes, mais qui ne sont pas abîmées parce que chez lui... au lieu d'avoir des peintures, ce sont des sculptures. Et donc il y a une voûte comme ça où vous promenez, où vous voyez, je trouve les mêmes dessins qui sont impeccables parce que il y a même pas d'humidité, même pas de mousse. Il y avait les châteaux d'Oiron qui avaient ça, donc c'était non pas très fréquent, mais un peu fréquent quand même. Donc ça impliquait quand même d'avoir le livre. Et je rappelle, on est quand même dans un petit bout du Lot, pour trouver les métamorphoses de vide, il faut se lever un peu, quoi.
Mm-hmm.
Et ensuite, avoir envie de les faire partager. Donc, il y a ce mouvement culturel qui est présent.
Oui, c'est ça, c'est le 16e siècle. Et,
qui a lancé
vous parliez du groupe de la Pléiade dans les autres émissions, mais on y est en plein, là.
Tout à fait.
Hein,
voilà.
Puisque la vicomtesse, de Gourdon.
Né Cardaillac.
Voilà, oui. Né Cardaillac était très fan, je dirais.
Elle avait ça et elle a dû laisser des notes et des notes pour les successeurs qui se disent, tiens, après tout, pourquoi pas, on aurait pu mettre, je sais pas quoi, il y a des traités de géographie, d'astronomie, il aurait pu mettre un dessin de chaque pour faire un cabinet là-dessus. C'est dans l'esprit de cette Renaissance dont vous reparlez à juste titre. Ça veut dire que c'est des endroits où on aimait sans doute se retrouver pour bavarder, parce qu'il n'y a pas de science infuse, contrairement à ce qu'on entend tous les jours.
Mm-hmm.
Chacun arrive avec sa vérité. Non, on s'écoute. D'abord, on apprend, on prend du temps, on lit, on va à l'école, à l'université, et après, on peut se permettre d'avoir quelques idées personnelles.
Voilà, mm-hmm. le retour à l'antique aussi, puisque
tout à fait.
La remise à jour des textes anciens, des textes antiques, c'est toute la Renaissance.
Exactement. C'était le retrouver nos racines un petit peu,
voilà,
comme on l'avait dit, grecques et romaines, et ensuite le monde évolue, c'est sûr, mais n'empêche qu'on n'a pas tout inventé tout seul d'un seul coup, parce que ça n'est pas parachuté, c'est l'évolution, comme il y a les évolutions scientifiques, techniques, il y a aussi les évolutions des idées, mais pour ça il faut pas faire du négationnisme, il faut considérer ce qui existait avant dans un contexte donné qui est plus celui d'aujourd'hui, c'est évident. Mais on peut pas effacer tout ça de nos esprits, me semble-t-il.
Au contraire, s'en servir.
Et voilà.
Ça donne des leçons.
Exactement.
On avait aussi à Rodez, Georges d'Armagnac, qui était ambassadeur de France à Venise. Mmh. Donc, il a fait pas mal de séjours là-bas, Venise étant un port commercial, artistique, intellectuel. Mmh. Donc, il y a pas mal d'artistes qui sont venus dans la région pour chercher du travail. Et il faut pas oublier que c'est l'époque du pastel.
Mmh.
Donc, les pasteliers ont fait fortune à ce moment-là.
Et on voit tous les hôtels particuliers de Toulouse qui ont été faits à cette époque, grâce de Bournazel, qu'on a à côté d'ici en Aveyron, et grâce à ces artistes qui circulaient et qui proposaient leurs services dans la région.
Oui, donc, et les guerres d'Italie ont favorisé ce genre.
On a vu, après on s'est dit en rentrant, est-ce que par hasard on pourrait pas faire la même chose? Et il faut des filières. Parce que le gars, il va pas venir de Rome pour construire ici à Sainte-Vierre, mais s'il sait que sur la route, il va trouver 10 ou 15 mandataires, ça lui fait sa carrière assurée. Donc il y avait ce côté un petit peu, on dirait aujourd'hui, réseau de gens qui aiment un petit peu toute cette antiquité et qui veulent la faire partager. C'est ça aussi, parce que je pourrais avoir une belle collection de bouquins, mais si je les garde chez moi, c'est pas la même chose.
Voilà, bah écoutez, merci pour toutes ces précisions, Madame de Braquilange, et avec Patrick de Braquilange, nous étions un long moment dans ce beau cabinet d'alchimie. Merci de nous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au revoir, Monsieur et Madame de Braquilange, à la semaine prochaine. Voilà, nous serons ravis de vous retrouver. Merci. Marie-Madeleine, comme d'habitude, tout à fait ravie de vous retrouver également. Au revoir à tous. Et merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Avoir Château dans le Lot. Visite découverte des châteaux de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.